Donc je suis devant le cabinet de curiosité d'Anne-Laure Boyer. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Sandrine. Bienvenue dans le cabinet de curiosité.
Alors on est ici dans ton lieu de résidence qui est devenu aussi ton lieu d'exposition.
C'est ça. En fait, c'est un hébergement qui se trouve à Lieu Commun, l'espace d'art Lieu Commun vers le Faubourg Bonnefoy. Et c'est là que j'ai habité pendant 2 mois, parce que moi, j'habite à Bordeaux. Et c'est Estelle qui m'a invitée pour une résidence de 2 mois ici. Et l'idée, c'était de travailler spécifiquement sur un quartier de Toulouse, le quartier Soupetard. C'était déjà tout un programme, rien qu'avec le nom du quartier. Et je sais pas, ça doit faire partie des facteurs qui m'ont amené à ce que j'ai proposé, au projet que j'ai imaginé spécialement pour ça, qui consistait à partir à la pêche aux histoires vraies. Les histoires vraies. Voilà, du coup, l'appartement où on se trouve, ben c'est là où j'ai habité et c'est là où je montre ben finalement tout ce que j'ai fait pendant ce temps-là et les résultats finaux, quoi. Voilà. On a présenté ça pendant le week-end de l'art contemporain, pendant 2 jours. Il y a eu plein de gens qui sont venus ici et je leur ai raconté un peu ce qui se passe là-dedans, quoi.
Et on peut faire la visite, nous aussi ?
Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est fait pour. C'est éphémère, alors autant en profiter tant que c'est encore là.
Alors raconte-moi.
Ben en fait, c'est toutes les images dont je me suis entourée pour imaginer comment j'allais dessiner mes histoires. C'est-à-dire que j'ai proposé aux gens que j'ai rencontrés sur le quartier de me raconter des histoires vraies. À partir de ça, au bout d'un moment, ben il y a eu plein de gens qui ont joué le jeu, qui se sont vraiment plu à ça, et je me suis retrouvée avec toute une collection d'histoires, une cinquantaine. Le projet s'appelle 1001 histoires. Il aurait fallu que je reste plus longtemps pour en avoir 1000, mais il y en a déjà une cinquantaine, c'est déjà pas mal. Et du coup, mon idée, c'était d'arriver à synthétiser tout ça, à faire communiquer les histoires entre elles, en quelque sorte. Parce que quand on raconte une histoire, eh bien, ça en amène toujours une autre, bizarrement. Et fatalement, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ça veut dire que les histoires communiquent entre elles. Et donc, j'ai voulu les associer ensemble dans un grand dessin et représenter ça sous la forme d'une architecture, en fait. J'ai vraiment pris le truc au pied de la lettre, faire communiquer les histoires entre elles. C'était créer des passerelles, des escaliers, ouvrir des portes, faire des passages secrets, évoluer dans un labyrinthe. Donc, finalement, j'ai représenté tout ça sous la forme d'une grande maison. Une grande maison d'un style un peu particulier, évidemment, très onirique. Et il y a des murs qui flottent, le toit qui s'envole, des parties de cloisons qui s'effondrent, d'autres qui s'ouvrent, des fissures dans lesquelles on trouve des lingots d'or, des échelles qui surgissent de nulle part. Et au milieu de ça, des objets, des personnages étranges qui se baladent. Et donc le mur d'images qu'on voit ici, ben c'est toutes les sources dont je me suis inspirée. Donc on voit beaucoup d'images d'architecture, beaucoup d'architecture utopique, en démolition ou des architectures impossibles aussi, avec des espaces à l'infini, comme pour ceux qui connaissent Escher par exemple, ou l'illustrateur Skuyten, ou James Wines, qui lui fabriquait ce garage à maison par exemple. Voilà. Et puis on voit aussi des images qui sont plus directement liées aux histoires qu'on m'a racontées. Par exemple, il y a un démolisseur, il y a un pont effondré, il y a un catalogue de vêtements pour le deuil, pour s'habiller en noir, sur mesure, pour les dames. Il y a quoi d'autre encore ? Il y a le mauvais œil, une fresque, une mosaïque du mauvais œil, l'encens qu'on utilise pour faire partir le mauvais œil pour soigner des personnes. On voit aussi le tirage du loto, des canalisations, des tuyaux, un cœur. Voilà, on voit aussi une collection de clés. On voit même les bateaux qui emmenaient les émigrants d'Europe à la fin du 19e siècle vers l'Amérique. Voilà, ça fait partie un peu de tout l'imaginaire qui s'est déployé et de ce que des extraits, des petits fragments de ce que les gens m'ont raconté. Voilà.
Et la carte est juste là à côté. On voit, enfin, là, on voit la matière qui t'a permis de réaliser ensuite la carte, de l'imprimer sur un dépliant.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai dessiné sur du papier calque. Parfois, j'ai décalqué des morceaux, des dessins. J'ai carrément pillé. J'ai fait une sorte de collage, en fait. C'est comme un collage dessiné. J'ai décalqué pas mal de dessins. Et ensuite, je les ai imbriqués les uns dans les autres. Ce qui fait qu'on a une superposition de calques. Et bon, je sais pas, il doit y en avoir 40. Des très grands et puis beaucoup de tout petits. Et j'ai utilisé une table lumineuse pour faire ça. Et donc, au bout du compte, ça me permettait de voir par transparence comment je pouvais construire les choses et les imbriquer petit à petit. Par exemple, on voit un bout de labyrinthe avec un grand bateau, un paquebot, bah, le transatlantique, qui fracasse les murs et qui les traverse un peu comme un passe-muraille. Donc, c'était aussi pour évoquer la rupture que représente une émigration, quitter un continent à l'âge de 4 ans pour aller ailleurs. C'est une des histoires qui a été racontée. Donc, dans chacune des histoires, j'ai cherché l'objet le plus symbolique qui correspondait à l'histoire. Il y a une robe de mariée, il y a un homme, une silhouette en noir qui tient une clé géante. Il y a une camionnette avec un gros jambon géant à l'intérieur qui dépasse des fenêtres. Un corbillard, une petite fille qui tient dans les bras un caniche. Voilà, tout ce genre d'objets, c'est vraiment les objets symboliques qui sont extraits des histoires. Et du coup, tout ça coexiste dans une espèce de maison éclatée, et à la fois qui se tient comme un ensemble cohérent, et ça forme le dessin final. Et donc mon idée dans ce cabinet de curiosité, c'était vraiment de partager toutes les étapes de création, donc de montrer vraiment les matériaux que j'ai utilisés. On voit tous les calques un peu, à la fois certains sont superposés, d'autres sont étalés comme ça, on voit aussi les cahiers de notes où il y a les enregistrements des histoires, que donc j'ai enregistré sur le quartier, tout est pris en note, il y a le time code, on sait que à 6 minutes 36, il y a une dame du Sri Lanka qui nous a expliqué comment ça se passe le mariage là-bas, et que quand une personne meurt, elle est enterrée avec son sari de mariage, par exemple, des choses comme ça, bon... Voilà, il y a aussi mes crayons, mes scotchs, j'ai même mis mes ciseaux, et puis des objets un peu débiles aussi. Enfin, ce que j'appelle des objets débiles, c'est encore une fois, ça fait partie de mon univers, l'univers dont je m'entoure et qui fait écho aux histoires qui m'intéressent et que j'essaye de partager ou de faire partager ou d'aller chercher chez les uns et les autres. Voilà, donc il y a un crâne par exemple, il y a des objets souvent symboliques, souvent évocateurs, un crâne qui vient du Mexique, de la fête des morts, il y a des arbres miniatures, Playmobil, des autocollants de chiens, collection de chiens aussi. Ouais, c'est un peu régressif, mais en même temps, souvent quand on... va bien chercher au profond de soi des souvenirs, et ben on repense beaucoup à l'enfance aussi, au passé. Et puis pour faire venir ces histoires, il y a aussi un autre aspect du projet qui est important, qui fait partie de ce que je montre dans ce cabinet de curiosité, c'est le jeu de cartes. Parce qu'avant de dessiner ce grand dessin, j'ai dessiné un jeu de cartes. Sur chaque carte, il y a un objet, en fait. Par exemple, il y a un cadenas, il y a un cercueil, une cage, une valise. Il y a la couture, une collection de cailloux, un gros bateau. Tout ça, en fait, c'est les objets qu'il y a dans les histoires. Et au début, quand je suis arrivée sur le quartier et que je pouvais pas venir comme ça, débarquer en disant juste, ben, raconte-moi une histoire vraie. Sur le coup, dit comme ça, ça fait rien, ça n'évoque rien. Donc je me suis dit qu'il fallait un support. Et donc, moi, j'avais déjà, par le passé, commencé à collectionner des histoires vraies que des gens m'avaient racontées comme ça à diverses occasions et que j'avais retenues, que j'avais pris en note, que j'avais même parfois demandé de me re-raconter pour avoir des détails et être plus précise dans l'histoire, et j'avais envie d'en faire quelque chose. Et donc c'est en venant à Toulouse que je me suis dit, bah tiens, on va utiliser ce matériau. Et donc mon idée, c'était de faire comme des groupes de récits, des groupes de conteurs, demander aux gens, ceux qui avaient bien envie de participer, qu'on se réunisse autour de ce jeu de cartes, chaque carte représentant un objet, et avec chaque objet, il y a au moins une histoire associée. Donc le principe, c'était d'installer les cartes et de demander aux gens s'il y avait une carte qui les interpellait plus particulièrement, Et de là, moi, je raconte une histoire, une première histoire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait des associations d'idées qui se fassent, que les souvenirs remontent, et ça marche à tous les coups. Et donc, c'est comme ça que les gens, se remémorent des choses, font des associations et ils se mettent eux-mêmes à raconter. Ils deviennent eux aussi conteurs, en quelque sorte. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai tout enregistré. Et au final, avec la compilation d'histoires sur support sonore, j'ai imaginé d'une part le dessin et ensuite... que ce dessin, il pourrait être sonore. En quelque sorte, c'est un peu comme un dessin augmenté sous la forme d'une page Internet. Donc, on retrouve le dessin sur Internet et on peut cliquer sur les objets qui sont dessus et ça active un petit fichier son. Et là, on entend l'histoire racontée.
Si moi, quand j'étais petite, j'ai perdu une chaîne où il y avait une médaille que ma grand-mère m'avait offerte. Je l'ai perdu dans la cour de la maison et 15 ans plus tard, papa, en bêchant le jardin, il l'a retrouvé attaché à une carotte. Quand il a arraché la carotte pour faire la soupe, et hop, il a tiré, il y avait la chaîne, il y avait la médaille qui était restée coincée.
C'est facile, le site il s'appelle 1001histoires.org. 1001 histoires, donc c'est 1001 histoire au pluriel.org. C'est une commande en quelque sorte, c'est vraiment un type de résidence particulier qui est financé par la DRAC et où le principe c'est qu'un artiste réalise une création qui associe étroitement les habitants d'un territoire donné. Donc ça veut dire que j'aurais pas pu aller, à Matabio ou... je connais pas les noms des quartiers à Toulouse. J'aurais pas pu aller n'importe où à Toulouse pour aller pêcher mes histoires. Fallait vraiment que je travaille qu'avec des gens du quartier Soupetard. Mais du coup, je me suis arrangée aussi pour multiplier les entrées. Quand on dit qu'on doit travailler spécialement avec un quartier parce que c'est un quartier éloigné de la culture, dans lequel il se passe pas autant de choses qu'en centre-ville, par exemple, moi, ça m'intéressait de voir quelle richesse il pouvait y avoir et des diversités de gens, d'âge aussi, et de considérer que même ceux qui n'habitent pas dans le quartier mais qui viennent y travailler, ils font partie des gens du quartier, en fait. Et du coup, j'ai rencontré tout un tas de gens et c'était super parce que ça fait un prétexte en or pour causer à des personnes qu'on rencontrerait pas autrement. Du coup, j'ai vraiment cherché le plus possible comment je pouvais multiplier. Donc, il y a eu bien sûr les âges, les clubs seniors, l'école maternelle ou le collège. Il y a eu l'ado devoir aussi, les enfants, et après il y a eu aussi par exemple une association qui aide les enfants handicapés de trisomie 21 qui s'appelle l'Esperluette, qui m'a accueillie aussi. Les gens étaient super, il y en a plein qui m'ont vraiment ouvert leurs portes et voilà. Après j'ai été aussi dans les groupes d'alphabétisation. Donc des gens qui viennent de partout, du Sri Lanka, de Madagascar, donc c'était vraiment hyper ouvert.
Quand j'étais enfant, je me souviens avec ma grand-mère, elle nous élevait, les parents ils étaient en France, et c'est les grands-parents qui nous élevaient. Et une fois, notre grand-mère nous a amenés nous balader, une sortie en mer, quoi. Et donc on est parti à la plage, tout ça, c'était sympa et tout. Et on était sur la plage qui était pour la plupart des gens, la plage populaire, on va dire, qui n'était pas privée, publique. Et moi, avec ma petite sœur, on a échappé un peu à la vigilance de ma grand-mère, on va dire. Et on a commencé à allonger le littoral comme ça. Et on marchait, on a dû marcher quelques centaines de mètres. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais il me semble quand même qu'on a pas mal marché. Et à un moment donné, on a vu du papier, des papiers, des bouts de papier qui se baladaient, etc. Et on s'est rendu compte assez rapidement que ça avait l'air d'avoir de la valeur, puisque on avait déjà vu les billets. Moi, je devais avoir à peu près 6 ans, 7 ans. Donc je savais que ça existait, quoi, que c'était sûrement de l'argent, que ça avait une valeur, mais c'était écrit en étranger, c'était pas écrit en arabe. Et c'était en Tunisie que ça se passe, l'histoire. Et donc on voit plein de papiers comme ça voler, et du coup on en a mis plein dans le maillot, et elle et moi et tout. Et vite, on est reparti voir la grand-mère et mes autres soeurs. Et bon, la grand-mère, sympa, tout ça, machin, on récupère le truc. Et le lendemain, surprise, on retourne à la plage. On a le droit de retourner à la plage. Et là, je me souviens, c'était waouh. Comme un rêve, ma grand-mère nous avait offert plein de glaces, plein de goûters. Enfin, pendant toute la semaine, on a eu plein de friandises. Et par la suite, après, j'ai su pourquoi. Parce qu'on avait trouvé des Deutschmark. Et c'était de l'argent allemand, donc il y avait des touristes allemands. Et apparemment, on a trouvé une petite somme coquette, puisque pendant toute la semaine, tu vois, on a eu droit à plein de friandises, des glaces, et des nourritures, voilà. Alors que nous, à cette époque-là, de par la situation... un peu précaire, quoi, de la famille et tout, pour manger une glace, il fallait vraiment qu'il y ait une raison bien valable, une fête, enfin, tu vois.
Il y a quand même eu des fois des personnes qui racontaient des enterrements ou comment ils rêvaient encore de leurs proches disparus, des choses très fortes, quoi. Et donc, moi, le rôle que je me suis donné qui s'est dessiné un peu de lui-même, c'était d'être digne de cette confiance, quoi. Et d'être dépositaire d'une parole de façon respectueuse aussi, et voilà. Donc ça, c'était une chose qui m'a un peu surpris, parce que je pensais pas que c'était l'occasion pour certains de se livrer. Mais il y a eu des histoires qui n'avaient jamais été racontées avant, qui m'ont été offertes, en quelque sorte, et qui sont aujourd'hui mises en partage. Mais ça, c'était des moments... c'était quand même quelque chose d'assez fort, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé vivre ça, ouais.
Et tu pars demain ?
Ce soir. Si tout va bien, si j'arrive à tout faire rentrer dans ma camionnette correctement, je rentre ce soir, ouais.
Dans quel état on est quand une résidence se termine ?
C'est pas tout à fait fini, parce que je suis à la bourre pour monter tous les épisodes pour Radio Éphémère, mais c'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'il y aura une transition et que je vais pas tout couper dès que je rentre, en fait. Et puis il y a encore aussi un après, c'est que le grand dessin qui est imprimé sous la forme d'une affiche à 2000 exemplaires et qui doit être distribué sur le quartier, cette affiche, elle vient juste de sortir, et j'ai pas eu le temps d'aller moi-même l'offrir et la remettre aux gens qui ont participé à toutes les structures dans le quartier. Donc en fait, on a décidé que j'allais revenir. Donc c'est fini, mais c'est pas tout à fait fini. Ils veulent pas me laisser partir.
Alors, je m'appelle Estelle et je suis chargée des publics à Lieu Commun, qui est un espace d'art contemporain dans le quartier Bonnefoy à Toulouse. Donc chargée des publics, ça veut dire que je m'occupe de toutes les actions de médiation qu'on met en place ici. Donc peut-être pour les présenter un peu rapidement, il y a vraiment deux versants dans nos activités de médiation. Il y a à la fois ce qui relève de l'accueil du public autour de notre programmation, à la fois le public individuel, le public de groupe, qu'on va souvent chercher, mais qui parfois vient par lui-même, enfin en tout cas qui revient à vrai dire. Et ensuite tout l'autre versant qui lui est vraiment sur des actions qu'on mène hors les murs, c'est-à-dire en dehors de notre programmation. Et c'est le cas de la résidence d'Anne-Laure, Mille et une histoires, qui se déroule aussi dans ce cadre-là de nos actions hors les murs. Alors pour l'historique de la résidence d'Anne-Laure, en réalité c'est la DRAC qui nous a approchés, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui nous a approchés pour nous confier, c'est vraiment une question de confiance, ce projet-là qui s'inscrit dans un dispositif de résidence de quartier, qui est un dispositif qui est développé depuis quelques années déjà sur les quartiers de politique de la ville, classés politique de la ville, et qui vient se calquer sur les résidences de territoire qui existaient auparavant en milieu rural. Il se trouve que le quartier de Soupetard, dans lequel est intervenue Anne-Laure, le quartier Soupetard à Toulouse, donc, c'est un quartier qui est politique de la ville uniquement depuis l'année dernière, puisque les critères en fait de sélection ont changé. Si avant c'était plusieurs critères, à la fois géographiques, sociaux, économiques, etc., désormais c'est uniquement basé sur le revenu médian de la population. Donc ce nouveau quartier qui, si on le connaît un peu, est un petit peu enclavé, qui est très peu desservi par les transports et qui a une géographie particulière, est politique de la ville. Et on nous a dit, allez donc faire une résidence de quartier à Soupetard. Donc nous, on s'est appuyé sur des partenaires partenaire avec qui on avait déjà travaillé auparavant, à savoir la Maison des Solidarités de Soupetard. Donc la Maison des Solidarités de Soupetard, c'est comme d'autres maisons de solidarité, il y en a une, je crois, pas loin de 15 en Haute-Garonne. C'est une régie du conseil départemental qui vient appliquer la politique médico-sociale du département, en fait, et qui apporte une aide à des publics qui sont en difficulté très variée, mais donc médico-sociale. On avait déjà travaillé avec eux dans le cadre du parcours culturel qu'ils mettent en place pour leur public d'adultes, qui leur donne accès à des activités culturelles et de loisirs. Donc dans ce cadre-là, on propose des visites ateliers avec des artistes. De la même façon, ils peuvent aller faire une initiation vélo avec la Maison du Vélo, donc c'est vraiment culture-loisirs. On travaillait déjà avec eux et donc on avait déjà une relation de confiance, en tout cas un confort de travail qui était prévu. On savait que ça allait forcément marcher avec eux. On a choisi aussi de travailler avec le club de prévention, qui lui est basé à la Roseraie, donc à l'extrême bout du quartier de Soupetard, et qui est depuis l'année dernière rattaché lui aussi au conseil départemental, au service de prévention spécialisé, et qui accompagne les jeunes essentiellement dans leur insertion à la fois professionnelle et sociale. Et ensuite, on a fait appel également au centre social de Soupetard, qui est une petite antenne du centre social de Jolimont et qui lui dépend de la mairie et qui, de son côté, développe plus des actions socio-culturelles vers un public très, très, très varié sur le quartier aussi. Voilà. Et par rapport au travail d'Anne-Laure, il nous semblait intéressant, elle qui vient déplacer cette mémoire, ou en tout cas en réinventer une, en décalage, donc paraissait intéressant aussi de l'inviter. Voilà. Et donc c'est un choix aussi qu'on a fait valider par les partenaires, puisque dans le cadre de la résidence de quartier, on a fait le choix d'être vraiment dans une co-construction et pas d'être nous la caution artistique et les partenaires des fournisseurs de public, on dira. Donc on a vraiment travaillé ensemble, on les a associés à ce choix et tout le monde a été enthousiaste dès le départ, voilà, sur le choix d'Anne-Laure.
Et donc ici, on est toujours dans l'appartement dans lequel Anne-Laure a vécu pendant cette résidence. Et le reste du temps, à qui il est destiné cet appartement de résidence dans le lieu commun?
Alors l'appartement, il nous permet, donc ça fait partie des outils qu'offre le lieu commun à ses artistes. Donc nous, on accueille des artistes en résidence, soit sur des résidences d'action culturelle, donc c'est le cas de Mille et une histoires, mais aussi sur des résidences de création. Donc là, dès qu'Anne-Laure sera partie, on va héberger les artistes qui seront en montage d'expo, en préparation de pièces, en résidence, pour la prochaine exposition qui débutera en juin. Voilà. Donc c'est un appartement qui parfois n'est pas occupé, qui est occupé par l'équipe pour les déjeuners du midi, parce que c'est le seul endroit chauffé avec les bureaux. Voilà, mais c'est un endroit assez vivant. Et c'est vrai que depuis, parce qu'au départ, bon, on avait fait des modifications dans le lieu, mais avant qu'il ne soit appartement, il faisait partie de l'espace d'exposition, comme les deux autres plateaux. Donc c'est aussi intéressant là, de le revoir investi en expo dans le cadre de Mille et une histoires.
Et les artistes qui sont intéressés pour venir participer, soit faire une résidence de création, soit une résidence de quartier, comment ils vous sollicitent, ils doivent contacter qui?
Alors c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que les résidents, c'est plutôt nous qui les sollicitons. En réalité, c'est rare qu'on reçoive des candidatures d'artistes pour des résidences. Enfin, on en reçoit, mais c'est pas notre modalité de fonctionnement. C'est nous qui imaginons de mettre en place une résidence, soit parce qu'il y a un dispositif dédié, c'est le cas pour Anne-Laure, soit parce que c'est en vue d'une exposition, et là, c'est nous qui allons chercher les artistes. Soit des artistes qu'on connaît déjà et avec qui on a vite envie de travailler, soit des artistes qu'on a vus au gré d'expo, ou voilà, qu'on va aller chercher pour faire une résidence. Steve McQueen when you're driving in your car, and you think you're a new James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen from you was a commercial spot on the TV screen. Movie star, whoa. You think you are a movie, movie star, whoa. You think you are a movie.
jet set. Fly your own privately a jet. But you have to work every day just for to get away. So you went to Sweden to meeting my Bergman, but he wasn't there, or just don't care. I think you should stop pretending that you are a movie star. Movie star, whoa. You think you are a movie star.